Lizzie présente Disparu de S.G. Watson, lu par Audrey Dulster, avec la participation de Fanny Roy. Pour Anna, Archie, Neil et Olivia. Et en souvenir d'Ansel Britz, 1979-2020. Ma vie s'acheva deux fois avant sa fin. Reste à voir si l'immortalité me dévoilera un troisième événement. Emily Dickinson. Avant.
Elle court sur la lande, aussi fort, aussi vite qu'elle peut. Un croissant de vieille lune la toise. Quelque part derrière elle, au loin, les lumières du village luisent d'un jaune anémique. Mais elle garde le regard fixé droit devant elle. Elle ne voit rien d'autre que la route. Elle n'entend que le sifflement de sa respiration sèche et le croassement des mouettes qui plongent en piqué. Pas le moindre bruit, laissant supposer qu'elle est poursuivie. Pas un cri, pas un aboiement de chien. Elle est en sécurité, se dit-elle. Elle peut s'apaiser, cesser de courir, marcher. C'est fini. Elle continue à courir malgré tout. Elle repousse ses limites, ses jambes accélèrent la cadence, son élan l'emporte jusqu'à ce qu'elle se retrouve sur le point de tomber tête la première, comme une marionnette dont on aurait sectionné les fils. Une voiture passe comme un éclair sur l'horizon, et c'est là que ça arrive. Son corps s'engourdit. On dirait qu'elle a atterri dans de la ouate. Ses bras, ses jambes, brassent l'air devant elle, mais ils ne lui appartiennent plus. Il bouge indépendamment de sa volonté. Elle n'a aucun contrôle. C'est comme si elle regardait par le mauvais bout d'un télescope. Elle essaye d'aspirer de l'oxygène, de revenir à la réalité en clignant plusieurs fois les yeux, mais il est trop tard. Son corps s'est rebellé. Lorsqu'elle tente de ralentir, elle découvre qu'elle n'y parvient pas. C'est alors que son pied heurte quelque chose. Elle ressent seulement une douleur abstraite, sourde, similaire à la fraise du dentiste après la piqûre anesthésiante. Néanmoins, elle trébuche au ralenti comme dans une profonde flaque de boue. Ses mains se projettent vers l'avant et elle touche le sol glacé. Sous le choc, l'air est expulsé de ses poumons, écrasé tel de vulgaires sachets en papier. Elle ne bouge pas. Elle pourrait se reposer, se dit-elle. Pour toujours, si nécessaire. Elle se voit de loin, comme si elle figurait dans un documentaire. Elle est couchée là, dans le noir, les yeux ouverts, les lèvres bleues. On la trouvera demain matin, congelée. Cela ne serait pas si mal. Mais non, elle ne va pas mourir ici, pas comme ça. L'énergie lui revient, une décharge d'adrénaline, et elle se remet debout à grand-peine. Elle marche doucement, un pied après l'autre, puis recommence, encore et encore, jusqu'à ce qu'enfin elle parvienne au carrefour, qu'elle examine d'un regard fiévreux. Elle tremble, même si elle n'éprouve pas de peur. Elle ne ressent rien. Elle pose son sac à dos par terre, puis tend le bras, le pouce dressé. L'heure est matinale, et il n'y a pas beaucoup de monde sur la route. Quelques rares voitures passent. Finalement, l'une d'elles s'arrête. Le conducteur baisse sa vitre. C'est un homme, bien sûr, mais pas question de faire la fine bouche. « Tu vas où, ma belle ?» Elle ne sait pas comment lui répondre. Elle ne sait pas projeter aussi loin que ça. Elle imagine Bluff House se dressant juste devant elle, se découpant sur fond de ciel clair, immense, lugubre, une seule lumière allumée dans une chambre à l'étage. Elle ne pourra jamais y retourner. Alors, elle secoue la tête. Elle sait où elle veut aller, en définitive, mais elle ignore comment y arriver. Et il faut qu'elle choisisse une destination avant qu'il se lasse. « N'importe où, » dit-elle, avant d'ouvrir la portière pour monter. « N'importe où, juste loin. »
Chapitre 1.
Site de l'Evening Standard, 14 mars 2011. En bref. Une mystérieuse inconnue trouvée sur la plage de Deal. Article par Olivier Johnson. Aucun commentaire n'a été publié. Les autorités s'interrogent sur une mystérieuse jeune fille qui a été amenée à l'hôpital la semaine dernière après avoir été découverte inconsciente sur la plage de Deal dans le Kent par un promeneur. L'adolescente, d'identité inconnue, dont on estime qu'elle a entre 15 et 18 ans, était trempée et a été conduite au Queen Elizabeth de Queen Mother Hospital à Margate, où on a constaté une hypothermie. Lorsqu'elle est revenue à elle, elle était incapable de communiquer son nom, son adresse, son lieu de naissance, et elle affirme ignorer totalement comment elle s'est retrouvée dans cette petite ville côtière. Elle est extrêmement angoissée, terrifiée devant les visages nouveaux, et fait preuve de réticence à parler. Les médecins n'ont repéré aucune blessure, et selon la police, rien ne suggère une piste criminelle. Elle restera à l'hôpital jusqu'à ce que l'équipe médicale ait décidé si son état exige d'autres soins. Selon nos informations, la police envisage de lancer un appel à témoins si son état ne s'améliore pas. Elle mesure 1,70 m, est en surpoids, a des cheveux bruns qui lui arrivent à l'épaule. Lorsqu'elle a été trouvée, elle portait un blouson noir, un débardeur blanc et un jean.
Aujourd'hui. Chapitre 2. Je ne dois pas m'endormir. Je le sais, c'est évident. On en connaît tous des histoires de ce genre. Où des gens qui sont prisonniers finissent par ne plus essayer de s'enfuir. Ils cèdent à l'épuisement et ferment les yeux. Le corps lâche. Ils meurent. Mais comment faire pour rester éveillé? Voilà la question qui me tourne dans la tête et m'obsède. Je venais d'atteindre le sommet de la colline quand je l'ai vu. Le truc mort en travers de la route, sans couleur identifiable et totalement immobile. Et à l'instant même où je relevais sa présence, je sus que je n'avais aucune chance de l'éviter. Il était trop tard. Je ne pouvais plus qu'enfoncer la pédale de frein et croiser les doigts. La voiture est partie en dérapage. Je me voyais comme un observateur extérieur, quelqu'un qui filmait l'incident pour la postérité. Je me demandais si je m'en sortirais. J'imaginais le véhicule pivotant lentement, suivant une courbe gracieuse avant de s'écraser contre un mur de pierre, dans un craquement sinistre. Je voyais le capot plié en accordéon, puis un moment d'immobilité parfaite et de silence pur, avant qu'une boule de feu illumine la scène. Je commence à brûler, ma chair rouge est dévorée dans la fournaise, puis de douces ténèbres fraîches m'enveloppent. Lorsqu'on trouvera mon corps, il sera tout tordu, méconnaissable. Il leur faudra chercher qui je suis à partir d'indices, mon dossier dentaire peut-être, le numéro de châssis de la voiture. Mais même à ce moment-là, ils se demanderont qui informer. Il n'y a personne en fait. Un colocataire que je connais à peine. Un ex-petit ami qui probablement s'en fichera. Et Dan, j'imagine, qui manifestera un intérêt purement professionnel. Si les journalistes viennent l'interroger, il leur dira que c'est tellement dommage, une véritable tragédie. Une belle carrière devant elle, quelqu'un avec qui on adorait travailler. Son prochain film s'annonçait comme vraiment prometteur. Elle aura été emportée bien trop jeune, bla bla bla. Quelque chose comme ça, en tout cas. Ils écriront le papier et le colleront en page 7, tant que rien de plus palpitant n'apparaîtra. Je ne mérite pas mieux. Mais ça ne s'est pas produit ainsi, évidemment. La voiture pivota d'un quart de tour et fit une embardée pour aller échouer dans un fossé peu profond au bord de la route. La ceinture me cisailla l'épaule et le tableau de bord avança d'un coup sec, puis mes dents s'entrechoquèrent douloureusement quand ma tête heurta le volant. Dehors, tout devint noir. Et l'espace d'une seconde ou deux, j'entendis un curieux sifflement strident dans une oreille. Lorsque j'ouvrais les yeux, je voyais double. Merde ! Me dis-je. Il ne manquerait plus qu'une commotion cérébrale. Mais quelques instants plus tard, ma vision s'éclaircit et je retrouvai mes esprits. Les phares étaient morts, et bien que le moteur ait accepté de démarrer au bout d'un moment, il émit un drôle de grincement, accompagné d'une odeur piquante de caoutchouc brûlé. Les roues tournèrent dans le vide.